Alors, bonjour à tous, bonjour Lucie, bonjour Aline, si tu la vois ou si tu lui parles, bonjour à Pascal, salutations à Jean-Bernard, bonjour la belle-mère. Alors, je me suis connecté un peu plus tardivement que d'habitude. J'attendais une conférence de presse qui devait y avoir sur l'émission Salut, bonjour de la part de quelqu'un que je connais qui fait partie d'une table de concertation auprès du gouvernement concernant les mesures qui sont prises dans les lieux de culte. Donc, qui représente la frange protestante de la table de concertation. C'était supposé passer à 7h45. Malheureusement, j'ai attendu, mais c'est pas encore passé. Donc, lorsque ce sera fait, j'espère obtenir le lien pour diffuser donc cette conférence, mais cette entrevue plutôt, à l'émission Salut Bonjour avec le pasteur Bourque. Voilà. Et je le diffuserai bien entendu sur ma page Facebook personnelle, ceux qui voudront le voir tout à l'heure. Alors, salutations à qui d'autre? Bonjour à Jean-Gilbert et à Ozani. Bonjour à Marie-André, à Farley. Bonjour à Rachel. Bonjour à la sœur Florie, à Frère Louis. Bonjour aux sœurs qui sont avec la sœur Rachel ce matin encore. Aussi, il y a Chantal, Mona, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Alex, Sandra aussi, s'il est avec toi. Bonjour à Thérèse, bonjour à Guy, bonjour à Nancy, bonjour à Marie-Marthe, à Marjolaine, s'il est avec toi. Bonjour à Denise et à Gérard. Bonjour à Myriam et à Donald. Alors aujourd'hui, deux rendez-vous encore une fois. Donc ce matin, vous êtes déjà connectés, mais aussi plus tard, ce soir à 19h, ce sera le cours sur les fondements chrétiens avec le pasteur André. Bonjour, pasteur David. No shoveling in the next few days, unfortunately. Bonjour à Bernadette. Hello Sylvia, God bless you. Bonjour Daniel, j'espère que tu te portes bien. Daniel qui est en retrait préventif. Un cas de COVID tout près de lui. Donc il est en retrait à la maison pour les 5 premiers jours, prochains jours. Alors que Dieu te bénisse, Daniel, et on prie pour toi. Bonjour à Denise, cette fois-ci de Laval. Alors, j'ai reçu beaucoup de commentaires concernant l'enseignement d'hier. J'espère, je comprends que vous avez apprécié. Ceux qui n'étaient pas là, on vous invite vraiment à visionner donc la bénédiction matinale d'hier. On est allé ailleurs que ce qui avait été prévu, mais je crois que c'était Dieu qui nous a guidés ainsi. Et on est allé aussi dans des choses plus personnelles de ma part. Donc, ceux qui sont curieux de voir ce qui a été partagé hier. Donc, vous pourrez après le live de ce matin ou le direct de ce matin, vous pourrez toujours aller voir la bénédiction matinale d'hier. On vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont cours. Donc, pour toute personne âgée de 5 ans et plus, bien sûr, si on est un enfant, il faut être accompagné de ses parents, bien entendu, ou d'un parent. Donc, 5 ans et plus, on s'inscrit pour le dimanche matin. Et pour tous ceux qui sont admissibles à un passeport vaccinal, donc je crois que c'est à partir de 13 ans, si je ne m'abuse, que le passeport vaccinal est exigible. Donc dimanche matin, vous devrez présenter le passeport vaccinal avant de rentrer dans la salle. Mais on s'inscrit tout simplement pour être sûr de tenir un registre, puisque s'il y a une éclosion, le gouvernement nous demande à nous-mêmes maintenant de contacter toutes les personnes qui pourraient avoir été contaminées. Donc ça nous prend ce registre. Donc c'est plus facile d'avoir le registre de prêt si on a effectivement fait une campagne d'inscription préalable. Bonjour Janine, très content de vous avoir avec nous, que Dieu vous bénisse. Bonjour Julie, que Dieu vous bénisse, salutations à votre époux. Encore une minute et on va débuter. Bonjour Suze, sois bénie, salutations à toute la petite famille. J'échangeais avec mes restes il y a quelques instants. On espérait tous pouvoir assister en direct à l'entrevue du pasteur Bourque. Ça sera pour plus tard, mais dès que j'ai le lien pour cette entrevue, je la diffuse sur ma page web. Donc pour ceux qui se demandent qui est Pasteur Bourque est le président de l'Association des Églises Baptistes du Québec et il est membre de la table de concertation auprès du gouvernement pour tout ce qui est mesures sanitaires au niveau des églises et des lieux de culte. Donc lui représente la frange protestante et évangélique à cette table de concertation. Et je sais qu'il y a un imam, il y a un représentant de l'Église catholique, un évêque, je crois. Je crois qu'il y a aussi un représentant de la communauté juive. Donc, ils se sont manifestés hier avec un communiqué de presse qui disait qu'ils trouvaient inapproprié donc l'exigence du passeport vaccinal dans les lieux de culte. Et il allait parler à Salut Bonjour. Donc, dès que j'ai le lien, je le diffuserai un peu plus tard sur notre page web, ou sur ma page web plutôt. Comme ça, vous pourrez le regarder. Alors, on va prier et on débute notre enseignement d'aujourd'hui. Bonjour Babette, bonjour Andreas, bonjour Francine. Alors, Seigneur, merci pour ce temps encore de partage, d'études, de lecture, de méditation, mais surtout un passage ou un temps, Seigneur, passé dans ta présence. Un moment, Seigneur, où nous arrêtons tout ce que nous faisons, où nous arrêtons toutes les occupations et préoccupations de la journée pour méditer calmement dans ta parole. Alors on demande, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres notre compréhension et que tu nous parles. Comme tu nous as parlé hier, comme tu as eu la liberté, tu as pris cette liberté de nous guider ailleurs que ce qui avait été pensé, prévu et préparé. On te demande, Seigneur, ce matin de faire de même, que tout ce que tu veux dire puisse être dit et que ta parole trouve une bonne terre, que ta parole trouve un bon contexte, une bonne disposition de notre âme, de notre esprit pour recevoir cette parole, afin qu'elle puisse croître, éclore et porter du fruit dans la vie de chacun d'entre nous et des fruits qui te sont agréables et profitables à l'avancement de ton royaume. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez qu'on continue à étudier Matthieu au chapitre 28. Le passage qu'on étudie est en fait une préparation pour la thématique 2022 qui sera révélée ce dimanche lors de notre première assemblée dominicale en présentiel depuis la fin décembre. Donc, on voulait attendre que vous reveniez ou qu'un maximum de personnes puissent se joindre à nous pour révéler cette thématique de 2022. Entre-temps, on se dispose, on se prépare et on étudie le texte dans lequel se trouve notre thématique sans l'aborder de plein fouet pour l'instant. Alors, on a étudié la semaine dernière du verset 1 au verset 10. Et cette semaine, on étudie du verset 16 au verset 20. Alors, je relis pour vous ce passage, donc à partir du verset 16 dans Matthieu au chapitre 28. C'est après que Jésus ait dit aux femmes qui sont venues porter de l'aromate et des parfums à la tombe, après que Jésus leur ait dit de dire à ses frères d'aller le rejoindre en Galilée, que c'est là qu'ils le verraient. On arrive quelques semaines plus tard en Galilée même, et les disciples ont répondu à cette invitation et à cet appel et se sont rendus jusqu'à la montagne. Alors le verset 16 nous dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et je relis les versets 16 et 17. 17 est le verset qu'on étudie aujourd'hui. « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Hier, on a pris le temps d'étudier la question du disciple, puisque le verset 16 nous annonce que les 12, les 11, en fait, il en reste 11, puisque Judas s'est suicidé, les 11 disciples vont se rendre jusqu'en Galilée à la mention et à la demande de Jésus, pour que Jésus s'y présente. Par conséquent, lorsque Jésus se présente devant eux, les disciples vont faire quoi? Ils vont le voir tout d'abord, ils vont se prosterner devant lui, mais la Bible nous dit que quelques-uns, malgré tout, eurent des doutes. Et c'est les trois points qu'on va élaborer ce matin de façon assez succincte. Voir. On dit quand ils le virent, quand ils virent Jésus. Donc voir, c'est le terme orao, orao, donc H-O-R-A-O, je répète, voir, pour ceux qui prennent des notes, en grec, le terme orao, H-O-R-A-O, qui va parler de observer, distinguer, percevoir, connaître et avoir visible ou avoir une chose qui est visible, être capable de remarquer avec nos yeux quelque chose. Donc, voir au rao, observer, distinguer, percevoir, connaître et être visible. Le premier point de la vie du disciple, puisque cette semaine, c'est les caractéristiques non plus de ceux qui veulent voir Christ, mais les caractéristiques propres aux disciples qui cherchent à plaire à Christ. Alors, une des meilleures façons de faire plaisir à quelqu'un, ça prend comme prérequis de connaître la dite personne. Si vous voulez préparer un plat, je sais, je retourne toujours à la cuisine, mais vous savez que c'est un de mes dadas. Donc, si on retourne à la cuisine, quand vous voulez préparer un plat, je parlais il y a quelques semaines avec le pasteur Sergio et il me disait que lui, son plat préféré, et sa maman, la sœur Nancy, sera en mesure de le confirmer, son plat préféré, c'est la lasagne. Donc, pour savoir que le pasteur Sergio aime la lasagne, il faut connaître le pasteur Sergio. J'ai quelques plats qui me sont très, très chers, que j'aime beaucoup. Plat québécois, le pâté chinois. Ceux qui sont au loin, vous pourrez aller voir sur Internet ce qu'est un pâté chinois. C'est foncièrement un hachis parmentier avec du bœuf haché et puis du maïs en grains et en crème qui sont entremêlés. J'ai le pâté chinois, mais pour que vous sachiez que j'aime le pâté chinois, il faut me connaître. Plus encore, si je vous dis j'aime le cassoulet, pour savoir que le pasteur Florent a comme un des plats préférés le cassoulet, encore faut-il qu'on me connaisse. Il en est de même de Dieu. Pour savoir ce qui plaît à Dieu, il faut le connaître. Pour savoir ce que notre Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur apprécie, il faut le connaître. Et ici, le terme voir, c'est cette capacité de percevoir quelqu'un. Un peu comme lorsqu'on est en couple, on en vient à connaître parce qu'on perçoit les réactions chez la personne qui est mariée à nous. Assurément, je connais mieux Daphné aujourd'hui, presque 30 ans après notre mariage. Je la connais mieux aujourd'hui que je ne la connaissais il y a 30 ans. Et assurément, Daphné me connaît mieux aujourd'hui qu'elle ne me connaissait au début de nos fréquentations 3 ans plus tôt. Donc, plus on est dans la présence du Seigneur, plus on apprend à le connaître. Lorsqu'on s'arrête sur le terme « aroah » aujourd'hui et qu'on parle de la vie du disciple, on parle donc d'être dans cette quête constante, dans cette recherche constante, ici-bas sur terre dans notre vie, à connaître notre Maître. Il est malheureux de croire que nous connaissons déjà Jésus. Certaines personnes se comportent comme si elles avaient déjà été capables de percevoir tout ce qui concerne Dieu, comme si elles étaient capables déjà de déchiffrer tout ce que Dieu représente. Je vous dirais que c'est se leurrer soi-même. Il est totalement impossible de percevoir totalement Dieu et de comprendre totalement Dieu. La Bible nous dit que nous connaîtrons toutes choses lorsque nous serons là-haut, lorsque nous serons dans l'éternité. Mais d'ici que nous soyons en présence de notre Seigneur Jésus dans le plus concret des dimensions, aujourd'hui encore, nous sommes dans ce processus d'apprentissage de notre Dieu. Nous sommes dans ce processus d'apprentissage de ce qui plaît et de ce qui plaît encore davantage. La Bible nous dit que nous apprenons ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, ce que Dieu trouve bon, ce que Dieu trouve agréable et ce que Dieu trouve parfait. Il y a une gradation. La vie du disciple qui veut plaire à son maître, la vie de l'enfant de Dieu qui veut plaire à Christ, c'est une vie où nous sommes axés dans l'apprentissage de la connaissance de notre maître. Plus je vais connaître Jésus, plus je vais savoir comment Jésus réagit, plus je vais savoir comment Jésus intervient, plus je vais savoir ce que Jésus bénit, de ce qu'il réprimande, ce que Jésus approuve, de ce que Jésus désapprouve. Alors notre vie de disciple, c'est une vie où chaque jour, nous sommes dans cette quête de mieux connaître le Seigneur. Et ça, c'est l'image que nous donne le terme aroah. Quand ils le virent, quand ils furent capables de le percevoir, quand ils furent capables de le reconnaître. Assurément, Jésus est ressuscité. On voit un passage où il dit à un de ses disciples de mettre les mains ou les doigts dans ses trous, de main, de pied, de côté, pour qu'il puisse effectivement attester qu'il est ressuscité. Pourquoi? Parce que ce bien-aimé a des doutes. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui pourront voir pourront croire sans avoir vu, sans avoir touché. Mais dans notre vie de tous les jours, nous sommes donc en train d'apprendre à connaître Jésus pour être capable de le reconnaître, peu importe les circonstances et les situations. Qu'il ait une apparence, qu'il ait une habitude de parler avec nous d'une certaine manière ou qu'il décide d'innover. J'ai remarqué dans ma vie personnelle, à un moment donné, j'étais habitué à ce que Dieu me parle d'une certaine façon, d'une certaine manière. Et avec le temps, je suis tombé un peu dans le panneau de croire que Dieu ne me parlait que de cette manière. Et Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Il n'a pas envie d'avoir une relation avec ses enfants où c'est tout simplement du train-train et puis l'habitude qui se crée. Puis bon, je perçois Jésus parce que je suis habitué à comment il fait. Il l'a toujours fait puis il continuera à le faire. Il n'y a pas cette lassitude qui doit s'installer dans notre relation avec Dieu. Et on dit que ce soit dans un couple, que ce soit dans une relation d'amitié, que ce soit même dans une relation professionnelle, dans une équipe sportive, on dit de renouveler les façons de faire, de toujours chercher à innover pour que la relation soit solide et qu'elle continue à se solidifier en dépit du temps qui passe. Et notre relation avec Dieu devrait être une relation qui est vivante, vibrante, vivifiée chaque jour de nouveau. Alors, Dieu, par moment, il est arrivé et puis il m'a fait comprendre que, regarde, Florent, je t'ai peut-être parlé comme ça pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans. Peut-être que c'était le moyen que j'utilisais pour te parler, mais ce n'est pas le seul moyen. Alors, j'en suis revenu à une certaine humilité de dire, je ne peux pas dire que je perçois totalement et constamment comment Dieu me parle. Je dois rester attentif. Parfois, lorsqu'on a trop l'habitude d'un certain pattern, d'une certaine façon de faire, on tombe dans cette facilité de dire, si je ne vois pas A, B, C, D, E, alors ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut nous parler de façon fraîche. Il veut avoir notre attention. Il veut avoir notre esprit tourné vers lui en disant, est-ce que Dieu pourrait être en train de me parler actuellement? Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu voulait me parler de différentes façons, notamment pour garder mon attention et faire en sorte que ma relation avec lui ne tombe pas dans la lassitude et l'habitude. Donc, une vie à apprendre à reconnaître le maître. Deuxièmement, on nous dit que les disciples donc le virent, et quand ils l'ont reconnu, quand ils ont perçu que c'était Jésus, ils se prosternèrent devant lui. Le terme se prosterner, c'est le terme proskynéo. Proskynéo, donc Proskyneo, proskynéo, Proskyneo, qui nous parle, oui, d'adorer, parce que la plupart du temps, lorsqu'on va avoir ce terme proskynéo dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on va aller soit par la traduction de la prosternation, donc se prosterner au sol, ou de la traduction adorer. Donc la vie du croyant est non seulement une vie où on tente d'apprendre comment percevoir Jésus, comment reconnaître Jésus davantage, mais c'est aussi une vie vouée à adorer le Maître. Ce que j'aime dans le terme proskynéo, c'est que ce terme-là, et on va le voir quand on l'utilisait un peu plus tôt dans le passage, lorsque les femmes ont reconnu Jésus qui s'est présenté devant elles, on nous dit qu'elles se sont prosternées. Dans la traduction en espagnol, pour celles et ceux qui lisent la Bible en espagnol ce matin, vous verrez qu'on ne parle pas de se prosterner, mais on parle directement du terme adorer. Et les femmes, au verset 9, on va nous dire qu'elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Il y avait dans l'adoration aussi une façon de faire corporelle. Proskynéo va nous parler de cette salutation des plus humbles et en même temps des plus honorantes qu'on pouvait rendre à quelqu'un. Lorsqu'on se proskynéo dans la tradition judaïque et dans la tradition du Proche-Orient, c'était qu'on se mettait à genoux et on courbait notre corps jusqu'à ce que notre front touche le sol. Si quelqu'un venait devant nous et qu'il était une personne de très très grand, de très très grande importance ou d'un rang très très élevé, il était normal de faire le proskynéo, donc de se mettre à genoux et de mettre notre front jusqu'au sol, que notre front touche le sol. En fait, dans cette image de l'adoration, il y avait aussi une image de se prostrer au sol et une image d'humilité. On reconnaissait non seulement que cette personne était importante, mais on reconnaissait que notre présence devant cette personne était aussi faite avec humilité profonde. Une des images qu'on voit de cela, et c'est Jean-Baptiste qui nous la donne, lorsqu'il nous dit que le Fils de Dieu l'agneau de Dieu, que lui qui est, la Bible nous dit, le plus grand de tous les prophètes, il va nous dire, lui le plus grand de tous les prophètes, qu'il n'est pas même digne de délier les lacets de ses sandales. Et pour délier les lacets de quelqu'un, ce qui était fait, c'était aussi proskinéo. C'était se mettre à genoux et s'abaisser jusqu'aux pieds de la personne, tête courbée, les bras avancés, pour délacer les souliers ou les sandales de la personne. Donc il y avait cette humilité profonde, mais de surcroît à ça, l'esclave, parce que c'était un esclave qui faisait le délassage des sandales, cet esclave était le même qui lavait les pieds des invités, et c'était le boulot, la tâche, la responsabilité de la personne la plus basse dans les rangs des esclaves de la maisonnée. Alors lorsque quelqu'un arrivait, qu'il s'accroupillait devant vous, qu'il s'accroupissait devant vous, qu'il tendait les bras, qu'il baissait la tête pour délier vos lacets, vous saviez que dans la maison de votre hôte, dans la maison de la personne qui vous recevait, il n'y avait pas de plus bas esclave que la personne qui était en train de prendre soin de vos pieds. Lorsque nous proskinéons devant Dieu, nous reconnaissons aussi notre bassesse devant Dieu. Hier, on parlait de l'orgueil qu'on témoigne parfois envers nos frères et nos sœurs, en oubliant qu'ils sont des disciples au même titre que nous, peu importe le rang qu'on peut occuper ou les fonctions qu'on peut occuper. À la base, nous sommes tous des disciples. On n'est pas tous des ministres. On n'est pas tous appelés au ministère. La Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ça veut donc dire que nous ne sommes pas tous appelés au ministère. Par contre, la Bible dit de faire de toutes les nations des disciples, de tous les peuples des disciples. Ça veut donc dire que tout croyant est un disciple. Alors, à la base, hier, on disait il faut arrêter la médisance, il faut arrêter de rire, de se railler, ou de railler les disciples qu'il y a autour de nous parce qu'ils ont moins compris une chose, ils sont moins rapides sur une autre chose, ils sont toujours dans un apprentissage que toi, tu as peut-être dépassé. Nous sommes tous disciples. Alors, lorsque tu critiques un disciple à côté de toi, tu critiques le disciple de ton maître. Et on indique qu'il fallait proscrire ça. Donc, avoir l'humilité envers nos frères et nos sœurs. Ici, lorsqu'on parle d'adorer, il y a cette humilité envers Dieu, de vouer notre vie à cette humilité et à cette adoration envers Dieu. L'adoration est plus que tout simplement réciter un tas de choses sur Dieu. L'adoration va bien plus loin que strictement faire l'éloge de Dieu. L'adoration va plus loin que d'énumérer toutes les qualités de Dieu. L'adoration va aussi dans le plus fort intérieur de chacun d'entre nous et requiert une humilité. Foncièrement, on ne peut pas plaire à Dieu si on est orgueilleux. Donc foncièrement, Dieu va utiliser tous les moyens pour nous rappeler à l'ordre et puis nous ramener dans cet état d'humilité. Et l'adoration est une manifestation aussi de l'humilité. Nous nous abaissons pour délacer les souliers de notre Maître Christ Jésus. Pourquoi il est important de penser à ça? Il est important de se le rappeler parce que plusieurs personnes ont oublié la notion de maître et de disciple. On aime se rappeler que Jésus est notre frère, que Jésus est notre meilleur ami, que Jésus est notre conseiller. Et tout ça, c'est vrai. Il est notre frère, mais il n'est pas égal à nous. Il est supérieur à nous. Il est notre meilleur ami, mais notre meilleur ami ne veut pas dire qu'il est égal à nous. Il est en même temps notre maître. Il est notre conseiller, mais ses conseils, c'est pas du genre je les prends, je les sous-pèse et je fais comme les conseils que peu importe qui pourrait me donner. J'évalue voir si ça me satisfait ou pas, et si ça ne me satisfait pas, je les laisse de côté. Non, les conseils de Jésus, ce sont les prescriptions du maître. On parlait hier de la notion de chef cuisinier et d'apprenti. L'apprenti ne prend pas les recommandations du maître qui dit, je pense que tu devrais couper tes pommes de terre de telle manière. Et l'apprenti se dit, hey, moi, je vais les couper comme j'ai envie. Non, l'apprenti va prendre même la technique de couteau, la technique de découpe de son maître. L'important, c'est pas que lui soit satisfait du travail, c'est que son maître, le chef de cuisine, soit satisfait du travail. Et malheureusement, très souvent, on a cette relation d'égo à égo avec Jésus. On est co-héritier avec Christ. C'est pas parce que je suis co-héritier avec Christ que je suis au même niveau que Christ. Christ est Dieu fait homme. Christ est le maître de la moisson et nous ne sommes que des ouvriers. Donc, il y a cette notion d'humilité qui doit revenir dans notre vie. Et même si nous savons que Dieu nous aime profondément, à un tel point qu'il lui fait chair, va donner sa vie, verser son sang, avoir son corps brisé pour chacun d'entre nous, même si on sait ça, mais ça ne fait pas que Jésus est égal à nous. Ça ne fait pas que nous sommes égaux à Jésus. Il reste notre maître, il reste le Seigneur des Seigneurs, et nous sommes ses sujets, nous sommes ses disciples. Et dans ma vie d'adoration, je suis en train de maintenir cette vénération envers Christ, cette révérence envers Christ et cette humilité par rapport à Christ. Donc lorsque on étudie ce passage, on est amené à deux choses. En tant que disciple, être humble par rapport à tous les autres disciples qui nous côtoient et être humble par rapport à notre maître. Même si on aime Jésus et même si Jésus nous aime, rappelons-nous qu'on a un endroit et cet endroit-là, Jean-Baptiste va le dire clairement, je ne suis pas digne de délier les sandales de ses pieds, de délier les lacets de ses sandales. Je ne suis pas digne. Et assurément, puisqu'il a été le plus grand des prophètes, aucun d'entre nous n'arrive à côté Jean-Baptiste, aucun d'entre nous n'est élevé à ce niveau-là. Nous devons donc, dans notre adoration et dans notre vie de tous les jours, prôner l'humilité, même dans notre relation avec Dieu. Un papa peut profondément aimer son enfant, mais l'enfant n'est pas égal au papa. Le papa, le père, est celui qui dirige l'enfant, c'est celui qui conduit l'enfant. C'est celui qui instruit l'enfant. C'est celui qui dit « voici comment on va opérer ». Même si un enfant fait des crises, même si un enfant se fait aller le mâche-patate et se met à dire « moi je veux ceci, moi je veux cela, moi je veux ceci, moi je veux cela ». Mais l'enfant ne va obtenir ce qu'il veut simplement que si le père obtempère. Alors voulons-nous avoir l'attitude envers Christ de cet enfant gâté qui se croit arrivé à la même stature que Christ, qui se croit arrivé à ce point d'élévation de Christ, où allons-nous comprendre que nous devons nous prostrer au sol et dire « je ne suis même pas digne de délacer tes chaussures ». Un peu cette image qui me revient, que je rappelle constamment, nous ne sommes que des pécheurs graciés. Et en tant que pécheur gracié, je reste humble dans mon approche et dans mon adoration avec Christ ou envers Christ. Dernier point pour ce matin, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, donc ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Très souvent, on parle du doute comme pratiquement un péché mortel. Ici, bien qu'à l'occasion Jésus va réprimander ses disciples pour leur manque de foi, ici, Jésus ne dit rien par rapport à ça. Jésus va simplement répondre au verset suivant que toute puissance lui a été donnée sur le ciel ou dans le ciel comme sur la terre. Quelques-uns avaient des doutes. J'aime qu'on rajoute quelques-uns. Et j'aime que par la suite, on se rende compte que tous ces 11-là qui étaient sur la montagne vont se retrouver quelques semaines plus tard à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, et être des instruments entre les mains de Dieu malgré les doutes qui, initialement, meublaient leur cœur. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'effectivement, la vie chrétienne est une vie communautaire. On en a parlé il y a 2 jours, dimanche, on a passé un peu de temps là-dessus. On s'est dit que notre vie, puisque nous sommes tous appelés à le voir et nous sommes tous appelés à l'adorer, c'est une vie de communauté. Mais cette vie communautaire a aussi un rythme qui est individuel. Le pasteur André l'illustre très régulièrement en disant « La vie avec Dieu est une vie que je mène en groupe, mais que je vis seul. Ma croissance spirituelle est une croissance qui s'exprime en groupe, mais qui s'acquiert individuellement. Ma relation avec Dieu, c'est quelque chose que j'exprime en communauté, mais que je développe de façon individuelle. » Et que ce soit dans notre reconnaissance de Jésus, donc dans notre capacité à voir Jésus et à reconnaître Jésus, que ce soit dans notre humilité envers lui et dans notre adoration, dans notre mode de vie d'adoration, cela se développe de façon individuelle. Nous devons passer par un apprentissage individuel au sein d'une vie communautaire. Quelques-uns avaient des doutes, pas tous. Ça veut dire que certains qui avaient fui Jésus le jour de son arrestation, qui n'étaient pas à la croix le jour où a eu lieu sa crucifixion, étaient malgré tout là, quelques semaines plus tard, à adorer Jésus, même avec les doutes. Donc certains d'entre eux avaient évolué, certains allaient évoluer plus grandement, même par la suite. Tous les disciples ne sont pas rendus au même endroit. Tous les enfants de Dieu ne sont pas arrivés au même endroit. Assurément, une famille est composée de parents et d'enfants. On a beaucoup de familles avec un seul enfant dans nos civilisations contemporaines, dans nos mondes occidentaux, mais habituellement, on va considérer une famille avec 2, 3 enfants. Dans les familles québécoises, bien traditionnel d'il y a encore quelques décennies, et c'est pas rare de rencontrer des gens peut-être de mon âge, environ 50 ans, 60 ans, qui vont vous dire que ils avaient X nombre de frères, parfois 10, 12, 15 frères et sœurs, et les familles étaient volumineuses. Mais 12 enfants, ça n'arrive pas en une année. Il y a une émission québécoise avec une famille, je crois qu'ils sont rendus à 11 enfants. Le plus vieux à 19 ans, le plus jeune à quelques mois. Mais ça veut dire que ces enfants-là sont arrivés de façon graduelle. Le nouveau-né n'est pas en train de se raser, alors que le fils aîné a assurément connu comment utiliser un rasoir. Le nouveau-né n'est pas en train de courir, le jeune homme de 19 ans, lui, est capable de faire du jogging, peut-être même des marathons. Donc, aujourd'hui, on doit comprendre que même dans l'Église, même dans notre même communauté, donc dans une congrégation locale, nous sommes tous arrivés à un point différent. On court tous dans la même direction. On court tous ensemble. Mais certains sont allés avec plus d'expérience. Certains ont eu un rythme de croissance plus développé que d'autres. Certains se sont assujettis à un rythme d'apprentissage aussi plus dense que d'autres qui leur ont permis de croître. Hier, on disait, il ne faut pas rigoler, il ne faut pas railler ceux qui ne sont pas arrivés à notre connaissance. C'est de l'orgueil. Mais il faut comprendre que dans une famille, tous n'ont pas les mêmes capacités. Tous n'ont pas les mêmes rythmes, tous n'ont pas le rythme d'apprentissage. Alors dans une église, c'est la même chose. Alors prenons soin des plus faibles, courons ensemble, permettons à nos frères et nos sœurs qui sont peut-être un peu plus lents dans le processus de pouvoir se joindre à nous, d'apprendre de notre expérience, d'apprendre de notre vécu. Et tirons vers l'avant ceux qui sont un peu plus en arrière et courons tous d'un même pas vers la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que la vie du croyant, la vie du disciple, en fait, se compose de trois points. Un, apprendre à reconnaître le Maître. Il nous faut apprendre à percevoir plus rapidement et plus intensément et plus intimement Christ. Deux, on doit avoir une vie qui est vouée à adorer Dieu. Et l'adoration est incompatible avec l'orgueil. L'adoration va nous amener à nous prosterner dans un état contemplatif par rapport à Dieu dans toutes les facettes de notre vie. Et enfin, on a vu que nous sommes tous dans un apprentissage qui est tout à fait personnel, même si nous avons une vie commune, même si nous sommes appelés à vivre une vie communautaire, notre apprentissage et notre rythme d'apprentissage varient d'une personne à l'autre. Ne nous satisfaisons pas tout simplement en nous disant « ben moi j'apprends moins vite, alors vous devez subir ma lenteur ». Non, même celui qui apprend moins vite doit faire tous les efforts pour apprendre. Même celui qui marche un peu moins vite doit faire tous les efforts pour mettre un pied devant l'autre. Donc ne tombons pas dans la paresse sous prétexte que nous avons été créés avec un esprit un peu plus lent que quelqu'un d'autre. Nous devons fournir tous nos efforts, toute notre attention pour atteindre le rythme que Christ veut que nous atteignions, pour atteindre la croissance, le rythme de croissance que Dieu veut que nous atteignions, même si celui-ci est individuel et respectif à chacun d'entre nous. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Je vous rappelle que ce soir, on a étude biblique avec le pasteur, plutôt cours pour les nouveaux, avec le pasteur André. Laissez-moi prier avec vous avant de vous laisser partir aujourd'hui. Alors merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ces rappels quant à une vie qui doit être vouée à apprendre à te reconnaître, à apprendre à te percevoir. Merci Seigneur de nous rappeler aussi l'importance de l'adoration dans notre vie personnelle, une adoration humble, une adoration dévouée, une adoration permanente où nous demeurons prostrés devant toi en signe d'humilité. Et merci Seigneur de nous apprendre que l'apprentissage est propre à chacun d'entre nous, que nous avons une vie, oui, qui doit être dans cette quête constante de connaître davantage, de savoir davantage, mais que cet apprentissage, personne ne peut le faire à ma place. Alors Seigneur, je veux fournir tous les efforts, je veux faire tout ce qui est à faire pour apprendre davantage et devenir, Seigneur, l'homme, le serviteur, le disciple que tu désires que je sois. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de toi, notre Maître, Jésus. Amen. Alors voici ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle deux choses importantes. Ce soir, cours sur les fondements chrétiens, les bases de la foi avec le pasteur André. C'est à 19h sur toutes les plateformes Internet de l'Église, dont la page Facebook sur laquelle vous êtes connecté actuellement. De surcroît à cela, pour l'assemblée de demain soir, l'étude biblique, on recommence le présentiel. Donc, ça sera en présentiel et en ligne pour ceux qui ne peuvent pas venir ou ceux qui n'auraient pas le passeport vaccinal à jour. Et dernière petite annonce, pour l'assemblée de dimanche, les inscriptions ont déjà cours. Vous pouvez donc nous écrire au secrétariat de l'Église. Comprenez bien que ce n'est pas du tout Messenger, c'est vraiment le secrétariat, le courriel du secrétariat de l'Église. Donc, secrétariat EAJC, en un seul mot, pas d'accent, secrétariat EAJC, @commercial.gmail.com, ou sinon, vous pouvez vous inscrire en nous appelant au secrétariat, donc en nous appelant à l'Église, au 514-273-8295, 514-273-8295. Et dans les deux cas, vous, donc courriel ou boîte vocale, vous nous indiquez votre nom et le nom de toute personne qui vous accompagne. Ces personnes-là doivent être âgées de 5 ans et plus, même si le passeport vaccinal n'est pas demandé pour les enfants, il est demandé pour tous les adultes, mais tous les adolescents et adultes. Je crois qu'on commence à 12 ou à 13 ans la demande du passeport vaccinal. Donc, sur ce, inscrivez-vous. Sur ce, Apprenez à connaître davantage Jésus et à le reconnaître davantage. Apprenez à l'adorer humblement à chaque jour, constamment. Et troisième point, apprenez. Apprenez, apprenez et apprenez encore. Ne ralentissez pas votre rythme d'apprentissage. Allez-y au rythme que Dieu demande de chacun d'entre nous, propre à chacun d'entre nous. Mais marchons tous d'un même pas, peu importe où on en est arrivé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.